Voxtrack.
Lorsque la musique rythme les mots.
Pour le plaisir des sens, comme un écho.
Une émission présentée par Meb.
Sur edencast.fr.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voxtrack consacré à un compositeur, Nicolas Michel Braconnier. C'est sa musique que vous entendez derrière moi et pendant près d'une heure, nous allons faire sa connaissance. Il va nous emmener dans son univers musical. Il va être question de matériel, de logiciel, de banque de sons, de divers autres sujets. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce numéro de Voxtrack consacré à Nicolas Michel Braconnier. Salut Nicolas, comment vas-tu ?
Eh bien écoute Meb, merci, ça va pas mal et toi ?
Ben écoute, c'est plutôt bien qu'on puisse se retrouver.
Eh ben écoute, je te remercie de ton invitation.
C'est un Voxtrack que je voulais faire avec toi parce que ça faisait un petit moment qu'on en avait discuté. On a mis du temps à le préparer. Et ce qu'on entend en fond d'ailleurs, c'est une de tes compositions. Est-ce que tu pourrais nous la présenter rapidement ?
Alors cette composition, elle a une histoire rigolote parce qu'en fait c'était une démo en fait, hein, qui me servait vraiment de bande démo. À l'époque où je cherchais à faire de la composition à l'image, donc court-métrage, moyen-métrage, long-métrage. Et en fait, cette bande démo allait rester sur le web à vivre sa vie. Et après, quand j'ai acquis mes nouvelles banques de sons, notamment de Spitfire, je me suis dit que ce serait marrant, c'est de soit repartir de zéro, rejouer chaque pupitre, ou alors de la rafistoler. J'ai choisi le second cas, et du coup, je l'ai... complété avec les outils dont je bénéficie aujourd'hui. Donc c'est une bande démo qui est censée représenter plusieurs types de climats sonores, angoisse, mélancolie, enfin tout ce qu'on veut, pour que quand on écoute justement cette bande démo, on puisse se dire « Ok, ce mec-là, il est dans tel rayon de musique, d'écriture, d'orchestre pour l'image, et a priori, il est capable de faire ça.
Voilà. » C'est vrai que la composition à l'image pour une personne qui est mal ou non-voyante, ce qui est ton cas, comment tu appréhendes cette façon de travailler ?
Alors en fait, c'est une discipline qui, aujourd'hui, pourrait s'apparenter à quelque chose de très simple, parce qu'encore une fois, on dispose d'outils comme Logic, qui est surpuissant, qui peut absolument tout faire. Moi, chaque jour, je suis encore émerveillé quand je trouve une solution à un problème, je me dis « Oh merde, la vache, quand même, on peut vraiment tout faire avec ce truc ». Mais à l'époque où moi, j'ai composé pour le premier long-métrage, c'était encore l'époque des combos, tu sais, avec petit écran, micro-cassette vidéo, donc les cassettes de caméra que tu venais mettre dans le combo, qui normalement servaient à avoir un retour vidéo en loge ou en plateau. Et en fait, on me confiait ce truc-là pour faire la musique sur les images. Et là, en fait, la seule technique que j'avais, moi, en tant qu'aveugle, c'était de déclencher un clic. Donc on se dit, admettons, c'est une scène d'action avec des bagnoles qui se courent après. On se dit qu'on se met un tempo à 140, tu vois, on a un tac, 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 et on compte le nombre de mesures que ça remplit, la scène. Une fois qu'on a fait ça, on repère les moments forts, les temps faibles, les machins, et on met des repères audio. Moi, j'avais un Yamaha Tyros à l'époque, le premier du nom. J'ai fait toute une bande originale de long métrage avec ce truc-là et un motif Yamaha aussi.
Il faut en revanche que la scène soit déjà plus ou moins montée avec les bruitages et tout, parce que les bruitages, c'est ce qui te sert à te repérer finalement.
Bah puis moi, c'était un film, si tu veux, il se mettait plusieurs étiquettes, semi-amateur, semi-professionnel. C'était à cette époque comme ça qu'on définissait les choses. Et en fait, il n'y avait que le son caméra, si tu veux. Moi, j'avais intérêt d'avoir une oreille super affûtée, parce qu'il fallait que je repère... la démarche de tel comédien pour arriver à les repérer, parce que quand il parle pas, bon ben voilà.
Oui, c'est ça.
Il n'y avait pas d'audio description, il n'y avait rien de prévu. Donc voilà. Et la technique de montage de musique. Souvent, on te fait faire la musique, et puis on te rappelle, genre 2 mois plus tard, on te disait à l'époque, ouais, on a emmerdé parce que... Alors, tu sais, les mecs, ils savaient qu'ils allaient se faire engueuler, donc ils disaient, on a emmerdé parce que là, la scène, elle faisait 3 minutes 20, et en fait, maintenant, elle fait plus que 2,19. Et à l'époque, il n'y avait pas de logique pour dire, ah, bah, c'est pas grave, je vais couper, là, au pire, je vais garder ma transition, là, puis tac. Non, tu pouvais pas, il fallait rejouer. Donc, tu réenregistrais sans arrêt. Moi, j'ai passé 3 ans sur ce long métrage qui ne verra jamais le jour. Voilà. Mais ça serait aujourd'hui, ce serait tellement plus facile. Avec Logic, tu importes le film dedans, tu mets ta musique dessus, si ça colle, pouf, t'exportes que les régions qui concernent ta musique. Le mec, il a la bande audio, il a plus qu'à faire sa vie, quoi.
Exactement. Et donc, ça, tu as fait ça avec le Tyros, tu avais ça à l'époque.
Ouais, j'avais ça, puis un enregistreur Yamaha AW4416. C'était pour celles et ceux qui n'ont pas connu, ce qu'on appelait un direct to disc. Ouais, c'était une table de mixage numérique avec un magnéto incorporé, enfin un magnéto, un disque dur intégré, qui faisait 40 gigas, je crois, de mémoire. Et il y avait un graveur de CD en dessous de la table de mixage qui permettait de ressortir son master directement gravé sur un CD-ROM, quoi.
C'est vrai qu'à l'époque, on faisait vraiment des sacrés trucs, hein, quand on y repense. Hein, il y avait des sacrées machines.
Mais même nous, si tu veux, si on ne cherche pas à faire de la fausse modestie, à l'époque, on était balèze parce qu'il fallait retenir les menus par cœur. Ou avoir des notes en braille, en partout, des feuilles volantes. Là. Oui, on m'a dit qu'il fallait 3 fois à gauche, 3 fois en bas, valider. C'était un bordel sans nom. Aujourd'hui, on est super assisté avec VoiceOver. La preuve, c'est que maintenant, quand on te demande un numéro de téléphone, tu es en train de réfléchir, tu fais « Merde, c'est quoi son numéro déjà ?» Ah, moi, j'avais des classeurs entiers de notices que... Je partais en internat la semaine à Linja ou à Normandie-Lorraine par la suite. Mon père, il se prenait la tête la semaine après son boulot à repérer comment on faisait sur le Yamaha PSR, je sais pas quoi. J'ai eu un GEM 6GEM S3 Turbo. C'était inaccessible, plein de boutons partout, mais on ne savait pas à quoi ça correspondait. Il se prenait la tête toute la semaine pendant que j'étais au bahut pour repérer les trucs. Ah oui, en fait, on fait comme ça, comme ça. Et quand je revenais le vendredi soir, il dit, tiens, prends ta Perkins. Et il me dictait ce que lui, il avait noté pour que j'apprenne à être autonome sur ma bécane, quoi.
Et franchement, c'était des machines tellement fiables qu'on se plantait rarement, faut avouer.
Mais c'est ça le pire.
Ouais. Ça, je suis
c'est ça le pire. Et ça mettait les gens qui travaillaient autour de nous, ça les mettait tous sur le cul, quoi. Parce que le mec, il arrive avec sa machine, il dit comment il va faire, l'autre ? Il y a pas de bras, il n'y a rien nulle part. Et toi, tu faisais tac, tac, tac avec tes boutons et ça roulait, quoi.
Alors, pour les gens qui nous écoutent, le morceau qu'on a écouté un petit peu au début, alors on va pas forcément le décomposer, hein, on va surtout aujourd'hui avec Nicolas, on va parler et écouter aussi les outils qu'il utilise pour composer. Donc ça rentre un petit peu quand même dans le thème de Voxtrack. Alors est-ce que tu peux nous décrire ton setup de travail ?
Mon setup, il est relativement simple et contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense aux gens qui souvent me mettent des commentaires sur ma chaîne YouTube qui disent que je dois vraiment être super top équipé. En fait, pas tant que ça. J'ai un Mac Mini qui est encore Intel, qui est de 2018. Il y a 32 Go de RAM à bord, ce qui n'est pas excessif, mais pour de l'audio, ça marche très bien. J'ai un Complete Control S88 MK2, donc la version 2. J'ai devant moi... Donc j'ai un bureau, un meuble principal qui englobe tout ça. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Misaor, je sais plus quoi, 88XL. C'est un truc qui coûte assez cher, mais dans lequel on peut tout raquer. Et devant moi, j'ai une surface de contrôle Fader Port 8 de Presonus. Mon interface son et audio, c'est une 18i20 de chez Scarlett. Enfin, de chez Scarlett, c'est...
Focusrite, non ?
Merci, Focusrite. Voilà. Ça, mes enceintes, ce sont des Yamaha MSP5 qui ont 25 ans. Et elles sont toujours en état de marche, plus que jamais. Et elles sont couplées à un caisson de basse qui est sous le bureau. C'est un Prodip Pro 10. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, des micros. Hein. Là, celui dans lequel je parle, c'est un Rode NT1A. Sinon, j'ai du Shure SM57, SM58, si j'ai des percussions enregistrées, des amplis guitare, des choses comme ça. J'ai une batterie Roland TD17 KVX version 2. Et le casque que j'ai sur mes oreilles, j'en ai plusieurs. C'est mon chouchou, c'est le Sony MDR7506.
Quelles sont tes banques de sons fétiches actuellement ?
Alors, déjà, on est sur du Logic Pro exclusivement. J'utilise pas Reaper ou autre chose à côté, parce que Logic se suffit à lui entièrement seul. Alors, côté banque de sons, je suis assez amoureux de Spitfire Audio pour tout ce qui est orchestre, cordes, percussion orchestrale, bien entendu. Ensuite, je vais avoir beaucoup de Acoustic Sample, qui est une boîte française pour tout ce qui va être vent, mais plutôt orienté jazz, donc tout ce qui est sax, trompette, trombone, clarinette, flûte, etc. etc. Et sinon, je suis en partenariat avec Ample Sound, qui est une boîte chinoise pour le coup, et qui est concentrée dans les guitares, les basses, et ils ont aussi un département instruments traditionnels chinois. Et c'est à peu près tout, parce que j'utilise beaucoup le contenu de Logic, par exemple tous mes drum kits, que ce soit pour le jazz, la musique moderne ou n'importe quoi, je crée mes drum kits à partir du contenu de Logic.
D'accord. Ouais.
J'ai même pas encore réussi à en être limité, si tu veux.
Mmh. Oui, parce que sinon, en termes de banque de sons, y en a quand même certaines qui sont vraiment très, très, très bien, comme je pense notamment à Toontrack, chez Toontrack.
Oui.
C'est Super Drummer 3 qui est devenu accessible grâce à Freelance Sound Lab. Et j'avoue que c'est un vrai régal maintenant.
D'accord.
Parce qu'en termes d'accessibilité, on est vraiment sur du compete control absolu.
Ouais.
Et c'est a été super bien mappé. Et on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, régler les différents micros de chaque élément de la batterie, etc. C'est pas mal.
Ce qu'on peut faire avec les drum kits de Logic. Hein.
Tout à fait.
Et si tu veux, si je te fais entendre. Batterie. Donc je vais te prendre un drum kit, un de ceux que moi j'ai créé. Je vais prendre le deuxième, allez. Jazz Drum Kit 2. C'est un drum kit que j'ai créé à partir d'un drum kit existant dans Logic. Sauf que j'ai créé ce qu'on appelle une track stack. Donc faire du layering en imbriquant des pistes les unes dans les autres. J'ai gardé ce que je voulais du drum kit original. Et comme tu sais, ça occupe pas toutes les notes sur le 88 notes.
Ouais.
Donc il y a plein d'espace dans lequel on peut mettre des choses. Et la track stack va pouvoir permettre justement d'aller incorporer des congas, des timbales, etc. Et là, tu vois par exemple. Alors ça, on connaît, mais j'ai réussi à caser ça par exemple. Une cloutée. Le cross-stick me plaisait pas, et je l'ai remplacé par un autre, en prenant celui d'un autre drum kit. Je me suis collé un bord de caisse claire qui en fait est un bord de Timbales, mais que j'ai mis sur le mi bémol à côté du cross-stick. Tu vois ? Et j'ai pu importer, en prenant d'autres pistes sur lesquelles j'ai mis le sampler multi-sample de Logic, j'ai pu mettre des splashs. Et du coup, ça rend plus riche, parce que sur la droite, j'ai... Tu vois, j'ai mis tous les éléments comme on pouvait trouver justement sur les PSR et les Tyros. Ça te permet d'avoir un jeu en live, même quand tu enregistres une piste batterie beaucoup plus complète. Quoi.
De ce que j'entends, moi, tu n'as pas à rougir, franchement, par rapport à Toontrack. C'est vraiment... Ou à Super Drummer 3. Je ne pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin.
Alors, on peut. Ça demande quelques... Il faut que je fasse des vidéos YouTube par rapport à ça, mais c'est un peu compliqué à expliquer. Parce que juste de trucs qui me permettent de transposer, tu vois, chaque piste pour pas que ça se rentre dedans. Et donc, je vais utiliser un effet MIDI, un plugin MIDI... Qu'on a sur chaque piste, hein, dans Logic, qui s'appelle Scripter, dans lequel j'insère du code qui dit à la piste en question, je veux que tu mutes de telle note à telle note, que tu laisses passer de telle note à telle note, et quand il y a des key switch, justement, de ne pas les désactiver, et de pouvoir dire, je te transpose, comme ça, tu rentres pas. Et là, j'ai vraiment un clavier complet, tu vois, je peux, même mon chalet, je l'ai mis en deux fois, ce qui fait que je peux. Ça gêne pas, en fait. J'ai tout ce qu'il faut sous la main.
Est-ce qu'au niveau des violons, tu as fait quelque chose, allons-y, des aménagements ?
Allons-y. J'ai fait un petit quelque chose, un beau quelque chose. Normalement, quand je vais activer la piste, vous allez entendre l'auditorium de la pièce où ça a été enregistré.
D'accord.
Si ça marche, parce que Il pleut sur les, sur, là, sur les toits où je me trouve. J'active.
Désactivé, muet, sur tranche de console.
Normalement, tu dois avoir un souffle.
Oui, j'entends la pluie.
Ah merde, attends,
je... Mais t'as un super micro, par contre, pour le
je
coup.
Mute ma voix.
Monitoring d'entrée. Monitoring. Piste 3 CineScore. Activé, muet, sur tranche de console CineScore.
On entend quelque chose en fond.
Ouais, t'entends un petit vrombissement. Oui, c'est l'auditorium à vide.
Voilà, c'est ça.
Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, j'ai pris une banque de chez Spitfire qui s'appelle Appassionata Strings. C'est un ensemble de cordes qui se veut beaucoup plus modeste que du symphonique pur et dur. Donc, on n'est pas sur une soixantaine de cordes, on est sur une trentaine. On est sur même 30.
C'est déjà pas mal, ouais.
Bah, c'est ce qu'on utilise, si tu veux, en pop, en ce qu'on disait de la variété à l'époque. Et du coup, l'idée, c'est que là, j'ai marié deux track stack, main gauche, main droite. C'est-à-dire que ma main gauche, je vais avoir violoncelle, contrebasse qui joue à l'octave pour donner cet effet qu'on appelle basse continue parfois. Et ma main droite, j'ai mes violons secondes qui sont aussi en legato. Mais comme j'ai dit à ma track stack, je veux que violoncelle, contrebasse s'arrête au fa dièse. Parce que sur le sol,
oui,
j'ai mes violons qui jouent encore David.
Pour faire simple, tu as respecté la tessiture de tous les éléments.
Voilà, et c'est surtout que je voulais qu'ils puissent jouer en legato tous, sans se rentrer dedans et sans annuler des notes. Ce qui fait que là, j'ai juste ce patch sous les doigts et je peux déjà te proposer un truc orchestral, corde, qui comprend 3 pupitres sur 5. Et pour ce qui est de l'expression, donc la dynamique, je le fais à la pédale de volume, donc à mon pied gauche, sur le bureau. Voilà. Parce qu'avant, ça se faisait avec la molette. Mais j'ai utilisé un autre truc dans Logic, un autre effet MIDI qui s'appelle modifier. Dans lequel
Modifier.
Et du coup, ça permet de pouvoir lui dire, je veux que telle interprétation MIDI.
Ouais. Ben ouais. Moi, je l'ai beaucoup utilisé avec VSL mains, aussi. Ça. Ouais.
Du coup, j'ai les deux mains libres pour jouer.
Ouais.
Je pourrais même jouer du classique. Hein. Et j'ai une dynamique qui est assez. Et une douceur d'archer qui est très très belle. Hein. Chez Spitfire, je trouve que c'est. À l'époque, c'était VSL qui avait le marché, je me souviens, il y a 20 ans. Maintenant, c'est plus trop le cas.
Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment, VSL.
Spitfire, ils ont. Ils n'ont pas cette obligation hollywoodienne. Tu vois, à l'époque, il y avait des trucs comme East West. C'était vachement bien, mais pour faire du John Williams.
Oui, c'est ça.
Pour faire du... Comment il s'appelle celui qui a des trucs démesurés. Alzheimer. Mis à part ça, je veux dire, dès que tu voulais enregistrer une pièce classique, ou n'importe, ça ne marchait pas, c'était trop coloré.
En fait, le problème d'East West, c'était très typé. On ne pouvait pas en sortir, en fait.
Que Spitfire est quand même vachement neutre, de par, je pense, les micros aussi à ruban qu'ils utilisent. Et du coup, ça permet de... Tu vois, j'ai fait des arrangements de cordes pour... là, je travaille sur le mixage d'un album pour un groupe de copains. Et il y a un pont, je leur avais dit, moi, je verrais bien des cordes à cet endroit-là. Ils m'ont dit, allez, carte blanche, vas-y, amuse-toi. Et les Appassionata, là, elles ont fait le boulot, mais nickel.
En termes de prix, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de musiciens qui nous écoutent et qui peut-être sont en train de se dire, tiens, ça tombe bien, je cherche des banques de sons sans passer par forcément VSL qui reste cher.
Les Appassionata Strings dont on parle, elles sont autour de 300 euros, je crois. Si on prend un orchestre complet... Alors moi, j'ai les deux grands orchestres de Spitfire. J'ai le BBC Symphony Orchestra et le Symphony Orchestra tout court, qu'ils appellent souvent par abréviation SSO. Le BBC, si tu prends la formule, la licence pro, il est à 1000 euros, je crois, quasiment. Et le SSO, lui, il est à 300... Non, il est à 600 quelque chose, peut-être. Mais tu vois, si tu veux des chœurs symphoniques, par exemple, je te fais écouter un truc en même temps. Si tu prends des chœurs, bien souvent, tu vas trouver chez plein d'éditeurs des banques de chœurs vachement bien, très complètes. Mais si tu te dis, par exemple, Moi, je veux juste faire des A, des O ou des OU sur un passage, sur un truc. Eh ben, il y a un truc qui, chez Spitfire, qui coûte quasiment que dalle. Et j'ai fait une trackstack rebolote avec, moi je ne le vois que par la trackstack, qui m'a permis d'avoir les altis, enfin les altos, pardon, et les sopranes sur la main droite, et ténor, basse, main gauche. Et du coup, je peux... C'est largement suffisant pour faire un petit passage comme ça.
Alors, ça, c'était pour les violons. J'imagine que pour le piano, tu utilises le Ravenscroft, non ?
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait toujours autant plaisir quand je reçois en commentaire un mec qui me dit « Mais c'est quoi ton piano, là ? Parce que c'est vachement bien !» Et quand je dis « C'est Ravenscroft », tu dis « Mais non, parce que moi, je l'ai, il sonne pas comme ça. » En fait, il suffit de bouger. Et d'ailleurs, j'ai fait un tuto complet sur YouTube par rapport à ça, comment personnaliser son Ravenscroft, à son goût personnel.
À partir des paramètres du Compete
Tout
Control.
À fait.
Ok.
Tout à fait. Là, j'ai fait une track stack aussi, rebelote, avec deux pianos Ravenscroft, paramétrés de la même manière, pour pas qu'il y ait de déphasage, mais en tout cas, ils ont... j'ai pris deux prises, la prise de proximité et la prise room, et je l'ai appelé, concert Ravenscroft, parce que ça fait vraiment piano de concert classique. Et avec ma molette de modulation, je peux activer una corda pour avoir cet effet, cette rondeur. Et c'est vrai que là, du coup, on le reconnaît presque pas, en fait, le Ravenscroft.
Et ça, à partir de tes paramètres.
Et en sachant que sur ce tuto, je partais du NKS avec justement les fichiers de JSON. Depuis, UVI Workstation est devenu, j'ai envie de dire, entièrement accessible sans rien du tout. Moi, ce qui commence à me fatiguer avec Native Instruments, c'est les problèmes de gestion au quotidien. C'est-à-dire que tu as un plugin qui est mis à jour, pouf, ça ne fonctionne plus. Tu es obligé de passer par notre truc, ça ne fonctionne plus. Donc UVI Workstation est accessible si je te fais entendre un sax qui vient de chez Acoustic Sample dont on parlait tout à l'heure, il tourne sous UVI aussi. Là, pareil, j'ai ma modulation, enfin j'ai ma dynamique au pied. Accessible avec UVI sans rien.
Il me semble que tu avais parlé aussi d'une clarinette que tu utilisais beaucoup.
Acoustic Sample, toujours.
Ouais.
Je prends celle-là, par exemple. Pareil, la dynamique au pied. Et j'ai la répétition de notes avec le mi bécarme à main gauche qui me permet de...
Eh ben, c'est bon, hein. On peut regarder un petit peu si tu utilises... Alors, l'orgue, je sais qu'il y a des orgues à mont, ça se trouve très facilement. Par contre, ce qui est plus difficile à trouver et de qualité, c'est les orgues liturgiques.
Effectivement, étant moi-même un passionné de la musique de Bach et donc de l'instrument, l'orgue, le roi des instruments, comme on disait à l'époque. Alors, il se trouve qu'il y a 15 jours, j'ai un abonné YouTube qui m'a écrit un petit mot très gentil en me disant « Je vois que tu utilises Organtech de Modart, qui est très bien, sauf que c'est de la modélisation, c'est pas du sample, donc ça a ses limites en termes de sonorité, même de pression acoustique, parce qu'un orgue, quand t'es en plein jeu, t'envoies des décibels, quoi. » Et il me dit, je suis malvoyant, moi aussi, je suis au Canada, et le mot dit français, et du coup, il me dit, j'ai acquis récemment un orgue qui est 100% gratuit, développé par Piotr Grabowski, qui s'appelle Frisach, ou Frisach, c'est F-R-I-E-S-A-C-H, et donc l'orgue de 44 jeux entièrement gratuit. Il me dit, le problème, c'est que ça s'utilise avec l'application sur Mac ou PC, hein, Optwerk, qui est la référence aujourd'hui en termes d'orgue virtuel. Sauf que pour nous, c'est même pas un rêve, parce que c'est que des consoles d'orgue avec le buffet, machin. Tout est ultra beau visuellement, sauf que VoiceOver, bah, il peut rien en faire. Et il me dit, bah, y a une autre application qui s'appelle Grand Orgue, qui n'est pas accessible non plus, mais j'ai réussi, moi, à me faire mes paramètres. Et puis, pour te remercier de tes tutos et tout ce que ça m'a apporté au long de ma formation, il dit, je te fais cadeau de mes réglages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cet orgue entièrement gratuit. Ah oui, bah, c'est là que tu dis, mon boulot, entre guillemets, vaut le coup, quoi.
Et en plus, ça, vraiment, les orgues liturgiques, je te dis franchement, c'est très difficile d'en trouver des vraiment très, très, très bons. Tout de suite, ça sonne pas, ou tu vois.
C'est-à-dire que tu as toujours des choses qui vont gâcher le tableau. Des fois, l'orgue, la sonorité va être très, très ouais. belle, mais tu as des problèmes de relâchement.
C'est ça.
Tu as des problèmes de Ron Robin, de machin. Et du coup, bam, ça va te gâcher le truc. On peut écouter si tu veux. Je vais le lancer. Par contre, il est long à se lancer. Je viens de lancer la soufflerie de mon orgue virtuel, donc le Frigesoche. Tu vois, on sent la pression acoustique.
On sent la pression acoustique et on sent le... C'est quoi, le 16 pieds ou le 8 pieds, là?
On a même du 32, là.
Ouais. Ah ouais.
Donc ça, c'est pour le plein jeu, maintenant.
On entend
même quand je change.
Ouais. On se croirait dans l'église, quoi.
Voilà, j'ai un jeu plutôt relativement doux. Et avec ma pédale, je peux aller au crescendo. La seule frustration quand on est un peu organiste comme moi, c'est d'être obligé de jouer les basses avec la main gauche et l'harmonique, la main droite. Normalement, je serais censé avoir les deux mains sur chaque clavier. Tu vois ? Et avoir mes basses au pied. Un jour, je ne désespère pas d'acheter
une console.
Peut-être pas à ce point-là, parce que c'est hors de prix. Mais au moins un pédalier 32 notes sous le bureau, tu vois, pour au moins jouer les basses et diviser mon clavier autrement, avec main gauche, harmonie, et main droite. Mais c'est dans un futur.
Franchement, rien à dire. Hein.
Là, je me suis juste mis, tu vois, une contrebasse. Enfin, un jeu de contrebasse. Et à la main droite, j'ai mon bourdon de 8, sur lequel j'ai été collé une quinte. Et tout de suite, on est dans l'univers Bach. Je pourrais improviser. Et quand je vais relâcher la note, on va entendre le son du relâchement acoustique. Ce qu'on n'a pas dans les modélisations. Voilà.
Et en plus, là, on a vraiment la sensation de hauteur aussi. Ce qu'il faut dire aux gens qui n'ont peut-être jamais entendu vraiment de très près un orgue, c'est qu'on a vraiment... Alors là, pour le coup, on est dans du Atmos. Puissance 10, là. Hein. Parce que c'est-à-dire que les jeux sont répartis à droite, à gauche, et on a même dans la même gamme des tuyaux qui sont à droite, et là, un demi-ton plus haut, on a un tuyau qui va être à gauche. Et donc, ouais. Du coup, d'un demi-ton à un autre, le son, il peut même passer de droite à gauche, en fait. Et donc, ça donne... C'est ce qui fait, d'ailleurs, la beauté de cet instrument. Hein. C'est ça, en fait. Mais c'est chouette. Hein. Franchement, c'est un bel instrument.
C'est ça. Et tu vois, par exemple, si on s'amuse... à enclencher les jeux qui nous concernent pour avoir ce qu'on appelle le plein jeu, qui est encore différent de vraiment d'avoir tous les jeux actionnés. Là, c'est le plein jeu pour avoir le son d'orgue caractéristique. Là, j'ai mis que le grand orgue. Si Si je te fais la même chose sur le clavier du positif, donc je vais décocher. Hop, j'enlève ça et je vais... Hein, du coup, je travaille avec les outils de Julian hein, qui m'a fait tous les raccourcis. Mais du coup, c'est qu'un système de key switch donc avec octave moins 2, plus 2. Donc, j'apprends à les connaître par cœur pour aller vite, quoi. Alors, pourquoi ça marche pas ? Voilà. Si je fais pareil, donc là, je me mets mon principal, mon prestant, mon super octave, et je vais aller coller hop, mes mixtures. Là, on entend, par rapport à ce que j'ai fait écouter avant, que c'est plus haut.
Mmh.
Dans l'église.
Oui, tout à fait. Ah, mais il y a un super son. Enfin, je sais, j'espère que ceux qui nous écoutent ont les casques qui vont bien, parce que là, on entend vraiment cette profondeur, cette hauteur de son.
C'est ça. Et si j'ajoute ma trompette et mon clairon, comme on fait souvent, bah là, j'ai mon... On y croit à fond, quoi.
On y croit. Ça, c'est plus pour te faire plaisir, non ? Ou est-ce que tu en mets dans tes compos ?
C'est pour soigner ma frustration de ne pas être titulaire d'un orgue.
D'accord.
Parce qu'on a un orgue ici où j'habite à Criquetot-l'Esneval. C'est en Normandie,
ouais.
À côté d'Étretat. On a un petit instrument de tribune qui est l'équivalent d'un clavier et un pédalier. Mais j'essaie de tanner le prêtre quand on se croise, parce que je me suis marié il y a 2 ans. Et je lui ai fait part de ça. Je lui ai dit, tu sais, si tu as besoin, moi, je te fais
mais les offices. Il est un titulaire ou pas ? Il est un titulaire ?
Il y a un titulaire qui est en fin de parcours.
Ben, alors, justement, tout espoir est permis, alors.
Oui.
Oui, non. Tu sais, ça... Non, ben, une ou deux canicules de plus, c'est bon, hein.
Nul ne sait de quoi demain est fait, je veux dire. Bon.
C'est ça.
Mais en tout cas, c'est un instrument qui, moi, me fascine depuis tout gosse. Et encore une fois, étant amoureux de la musique de Bach, tu ne peux pas passer à côté du... Et j'ai aussi un clavecin virtuel de chez Acoustic Sample qui sonne pas mal du tout aussi. Donc voilà, c'est plus pour la curiosité et la continuité de mon étude de la musique. Parce que finalement, mon activité première à moi, ça reste d'étudier la musique sous toutes ses coutures. Parce que je suis pas musicien professionnel, moi, je suis amateur. Donc voilà, le plus clair de mon temps, je le passe à étudier de toute façon. Que ce soit des œuvres de Bach ou même des choses comme des symphonies de Mahler ou... Enfin, il y a tous les jours quelque chose à apprendre.
On peut même peut-être dire que tu es semi-pro, non ?
Alors, ça c'est un truc, c'est quelque chose que j'explique au moins une fois par jour, je pense, aux gens que je peux croiser. C'est qu'amateur, pro, c'est une question de statut social, en fait. Tu es pro, tu vis de ce que tu fais. Tu es amateur, tu n'en vis pas. C'est pas une question de compétence ou une question de talent ou je sais pas quoi. Moi, j'ai choisi de rester amateur parce que le milieu pro ne me parle pas. Pour faire les choses simples, ça ne me parle pas. Et ça voudrait dire pratiquer une hypocrisie dont je ne me sens pas capable. Voilà. Donc du coup, je reste amateur. Ce qui n'empêche que de temps en temps, j'ai des gros projets qui pourraient ramener beaucoup d'argent. Mais plutôt que de me faire payer en argent, je me fais payer en banque de sons.
Ce qui n'est pas idiot.
Bah, c'est un échange de bons procédés.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Ah, j'ai un titre à faire, tu peux me faire tous les arrangements et la prod. Bah ouais, normalement, ça coûterait tant. On se dit que tu achètes sur le site la licence du produit concerné, tu me l'envoies, tu la mets à mon nom, avec mon mail, comme ça moi je reçois le produit, la licence, les liens de téléchargement, tout le monde est content.
Il y a un truc que je vais te faire écouter. Ça te parle, cette musique que tu entends là ? Est-ce que ça te dit quelque chose ?
Ça me dit vaguement quelque chose et je crois que je connais le mec qui a produit ça. Plus sérieusement, c'est le générique pour oxitude.org.
Ouais, tout à fait.
Donc d'un copain, Philippe, qui m'avait commandé ce générique que j'ai fait à l'époque avec des moyens bien plus modestes que ce qu'on a pu entendre là aujourd'hui. À l'époque, c'était le Sonar sur un PC Windows XP. Pour les rythmiques percussifs, là, c'est des trucs qui viennent d'un truc qui s'appelait Stius Remix. Je crois que c'est Spectrasonic
qui faisait ça à l'époque. Oui, c'est ça, tout à fait.
C'était principalement des boucles, des machins, oui. Des trucs. Le piano, le reverse qu'on entend à la fin, c'était mon motif XF7. Donc c'était en 2013-2014, je pense, quelque part par là. Macartson, alors ça c'est spectaculaire parce que j'ai mixé des disques entiers avec ça. Et quand tu donnes la référence au mec, il a envie de te foutre dehors parce qu'il croit que tu te moques de lui. C'était une Edirol UA101. Ça coûtait 300 balles à tout péter. Et c'était un boîtier en plastoc. Mais vraiment, tu me demandais si la marque c'était pas Fisher Price finalement. Et pourtant, ça a fait son boulot pendant longtemps. Et donc, sous Sonar, qu'est-ce qu'il y avait d'autre là-dedans? L'arpège de guitare qu'on entend électrique, pareil, c'est le motif XF. Il n'y a pas grand-chose comme outil. Hein. Mais voilà, déjà, ça permettait de produire des petites choses à la maison. Ouais.
Ce générique, que les auditeurs d'Oxitude connaissent, et qui connaissent aussi notre plateforme, puisqu'ils sont un petit peu sur les deux, hein, de toute façon, on va tous dans la même direction. C'est informer, parler d'accessibilité, que ce soit Philippe qui le fait très bien ou même sur ce site. Dans ma manière de voir les choses, je trouve qu'on fait tous quelque chose de complémentaire. Voilà.
Tu sais, dès l'instant que tu arrives à mettre l'ego de côté, tout se passe très bien.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, tu vois, j'ai pensé à parler de ça parce que je trouve que c'est bien de connaître un peu la genèse de ce générique emblématique, intemporel même, parce que du coup, ça fait un moment que ce générique tourne là sur Oxitude. Si tu veux, pour moi, ton générique, ça a une empreinte, en fait, si tu veux.
Enfin, tu me diras, après, c'est le rôle, justement, que tu dois remplir. Hein.
Exactement.
C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, une identité sonore. Hein.
Et cette identité sonore, elle traverse bien les années, je trouve, parce que ça reste indémodable, en fait. Je ne toucherai pas à ce générique.
Ouais.
Ah non, mais c'est...
Bah, de temps en temps, il est question, j'ai Philippe au téléphone, il me dit, j'aimerais bien changer. Et après, il me dit, oh, peut-être pas tout de suite, parce que celui-là, on l'aime bien.
Puis en plus, on le retient facilement. Non, c'est un très bon thème. Alors, je ne sais pas combien de temps t'as mis pour le faire.
Bah, c'était de la courte durée, hein, parce qu'en fait, la commande de Philippe, c'était un générique de début, un générique de fin qui serait le même, mais pas avec la même conclusion.
Pas tout à fait, oui.
Ou la même... Non, c'était pas la même intro, je crois, plutôt. Et il m'avait demandé aussi quelques petites virgules pour mettre entre deux. Donc on avait juste un ting, d'un, bon.
Ouais, qui n'est pas tout à fait dans la même tonalité d'ailleurs, je crois.
Voilà, c'est ce qu'on fait en radio, média en général. Ouais.
C'est très intéressant de faire l'habillage sonore d'un média.
Très.
C'est un peu comme Jean-Michel Jarre là, qui a fait tout l'habillage de France Info. C'est vraiment beaucoup de travail. Et puis il faut faire les essais, c'est compliqué, hein. Donc voilà, donc je voulais qu'on fasse un petit clin d'œil comme ça à Oxitude.
Oui.
Moi, je trouve ça super de dire que il faut un sacré boulot aussi, hein, de veille et d'information et tout. C'est quand même pas rien, c'est du boulot.
Bah, c'est surtout pas trahir la commande du client, enfin pas trahir ce que lui il veut. Donc moi, j'étais beaucoup à l'écoute de ce que lui voulait, et puis il fallait que ça soit court, que ça soit fait relativement rapidement. Je sais plus combien de temps j'ai mis. Pour faire tout ça, je crois que j'ai mis une petite semaine, quoi. Puis ce qui est génial, c'est que c'est fait à la maison, quoi.
Ouais, enfin, voilà.
Aujourd'hui, ma musique, moi, je la produis ici, c'est mixé, masterisé ici. Ça part après sur les plateformes, on n'en parle plus, quoi. Il n'y a plus besoin d'avoir à négocier avec Pierre-Paul Jacques.
Et puis voilà, on est quand même, on fait ce qu'on veut, on le fait comme on le sent, quand on a envie.
Moi, je peux être un mois sans ne rien faire parce que j'en ai pas envie. Hein.
Tu fais autre chose, mais tu fais pas ça, quoi.
Voilà. Parce qu'il faut aussi avoir du recul sur ce qu'on fait.
Mm-hmm.
Et c'est compliqué, par contre, quand on est tout seul dans l'équipe, de rester objectif. Parce que quand tu te fais la prod, l'enregistrement, le mix, il y a un moment donné dans le mixage où tu décroches parce que tu n'entends plus ce qui est pas bien. Et du coup, comme tu n'entends plus ce qui est pas bien, bah, tu t'induis toi-même en erreur. Et tu vas aller tendance à faire des âneries, quoi. Même des erreurs de débutant, du style « ça, je l'entends pas, je vais le monter, surtout pas ». T'entends pas, tu baisses le reste. Et malgré qu'on le sache, au fond de nous, ça, qu'on ait suivi des formations ou je sais pas quoi, bah mine de rien, on va avoir tendance à le faire, parce que c'est beaucoup plus facile de monter un curseur que d'en descendre 38.
Bon, est-ce que t'as sous la main peut-être une compo, et avec éventuellement les pistes séparées, je sais pas, est-ce que t'aurais ça sous la main?
Alors, par exemple, ce morceau... Ça dit tout par Split, c'est un gars qui a notre âge, hein, et qui fait du hip-hop assez moderne. Et il voulait qu'on mélange le côté beat comme ça, hip-hop type, mais avec un arrangement de cordes écrit comme on le faisait dans la chanson française il y a 30 ou 40 ans. Donc une vraie écriture de cordes traditionnelle, et ça nous donne ceci. Je me sens assez fort, ne pas en faire un drame. Et si ma haine répond à ta haine, comment finira la haine? Je fais de la vie. Alors, on peut s'amuser à écouter juste les voix et les cordes. Je
vais caler ça, c'est une super idée. Et on peut l'écouter sur une plateforme, ça, hein, ce titre-là.
Il n'est pas encore... Non, il n'a pas encore été publié. J'attends que l'artiste d'accord. s'en occupe. Ouais. C'est en cours.
Ma tête comme un bras zéro. Je me roule encore un bédo. À la guerre,
ah, donc on a les cordes qui entrent.
Je suis prêt à affronter le pire. Sur ta tête, mon revolver. Tu m'entends, tu respires. Une petite voix me détaille cette histoire est naze. T'es laide comme Simone dansant. Koukaï, quand t'évites que nos regards se croisent. Ça dit toujours, j'ai envie de courir et fuir cette putain de life. Y'a des jours, je me sens assez fort pour ne pas en faire un drame. Et si ma haine répond à ta haine, comment finir à la haine? Tu fais des larmes, ça devient de love. Et tu dois tourner si la même salle. Ça dit tout. Tu me pousses à la perte de contrôle depuis.
Et tu vois, si on avance dans le morceau.
Une maison close.
Tu vois, je fais la même chose à l'octave.
Y'a des jours, je me sens assez fort pour ne pas en faire un drame. Et si ma haine répond à ta haine, comment finir à la haine?
Et tu vois, finalement, on en oublie à l'écoute que ce sont des cordes virtuelles. Tellement le legato de Spitfire est crédible.
Et mélangé avec tout le reste, effectivement, on ne voit pas la différence.
De signes. Et tu vois, il y a un crescendo à la fin.
Ma dernière nuit à l'hôtel des culs tournés. Ça dit toujours, j'ai envie de courir et faire cette putain de life.
Donc on arrive à avoir aujourd'hui des résultats. Alors clairement, hein, que je préférais aller convoquer 30 cordes dans un studio local ici, dans la région havraise, et puis lever la baguette, puisque je l'ai fait il y a 20 ans. Je préférais clairement aller lever la baguette devant un orchestre. Et puis... Mais en termes de moyens, quand tu es sur un truc, tu n'es même pas sûr que ça ramène quelque chose. Aujourd'hui, tout fonctionne aux chiffres. Et c'est pour ça aussi, tu vois, je faisais tout à l'heure que je ne veux pas entrer dans ce milieu pro. C'est aussi pour ça. C'est devenu un métier qui est devenu inintéressant dans le sens où on ne parle que de chiffres. Tu vois, quand on te dit que la chanteuse la plus exportée de France, la plus écoutée dans le monde, c'est Aya Nakamura, parce qu'elle représente tant de millions de streams. Mais où va-t-on, je veux dire? Après, comment tu as envie, toi, de te dire « Ouais, c'est ça que je veux faire ». Non, trop pas, quoi.
Ouais, puis quand tu rajoutes après les histoires d'intelligence artificielle où tu as des mecs qui produisent des milliers de morceaux par jour juste pour essayer de capter les pouillèmes des plateformes de streaming, mis bout à bout, ça commence à faire des sommes. Bon, bah, c'est un autre travail, quoi. C'est un autre business, quoi. C'est pas très honnête, tout ça.
On a un camarade, un non-voyant, qui est un copain à moi, qui sait jouer clairement du clavier. Je veux dire, il se débrouille très, très bien. C'est même lui qui m'a à moitié formé sous sonar au départ. Donc, c'est pour dire que le gars, il sait se débrouiller. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et là, il a produit un titre pour la Coupe du Monde de football, machin. Et quand il l'a mis sur les réseaux, je lui ai dit... Alex, putain, t'as fait appel à l'IA. Il dit, oui, mais c'est pour aller plus vite, machin. Puis moi, il me dit, puis moi, j'ai pas ton talent. Je dis, arrête, Alex, tu sais faire plein de choses. C'est juste que t'as voulu aller vite. Et puis, t'as peut-être été conseillé par des gens. Mais c'est dommage.
Ouais.
C'est complètement dommage. Et puis, voilà, je sais pas où ça va le mener, ça. Mais, enfin, moi, ça me fait mal au cœur quand les gens sont capables de faire des choses. Et puis, faut pas tout mélanger. Je veux dire, c'est si t'as envie de jouer de la musique, c'est que quelque part, tu es passionné par la musique. Je vois pas où est le kiff, tu vois, pour reprendre le langage. Je vois pas où est le kiff de taper un prompt et d'avoir un résultat. Le fait d'enregistrer les pistes séparément, de tourner mon tabouret, de prendre les baguettes, de faire la batterie, des machins, après de prendre une guitare sèche, bah mine de rien, c'est archi gratifiant. Et puis c'est bon pour la diversité de l'exercice, quoi. Alors tu progresses en même temps sur chaque instrument, parce que tu les bosses malgré toi, sans te rendre compte, tu travailles chaque instrument. Là, quand tu t'en arrives à taper des prompts, je vois pas... Enfin, moi, ça me gâcherait le plaisir, même si on me disait, tu vois pas, au lieu de faire un mastering par matinée, tu vas en faire 400 à la journée. Mais ça va m'enlever, moi, le plaisir de me dire... Et si j'essaye ce truc à ruban, là, ça change quelque chose? Et là, pourquoi je pourrais pas enlever... peut-être 2 dB. C'est quand même un truc qui est hyper passionnant, je veux dire, de mixer les choses, de les créer, de les emmener au bout soi-même. Je vois pas où est le truc, si ce n'est soigner peut-être un mal de reconnaissance. Et c'est des fois quand on m'amène sur ce terrain-là, tu sais, de la reconnaissance, Je dis, moi, mes parents m'ont toujours considéré comme un petit génie. J'en ai eu de la reconnaissance pour 10 millions d'années. Mon ego se porte très bien, en fait. J'ai pas besoin d'avoir une page qui s'appelle Kiki ou peut-être oui. officielle oui, oui. pour qu'on se dise...
Bah, et ça, c'est une discussion ça, que j'ai. Oui, mais parce que tu as eu de la chance aussi d'avoir eu beaucoup de reconnaissance quand tu as fait le plein, en fait. Tu as fait le plein quand tu étais petit.
Ouais.
Tu as des gens, malheureusement, qui n'ont pas eu ce que tu as eu. Et du coup, bah, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens que de faire alors, soit du foot, soit de la musique, soit ce que tu veux, pour, ouais. Pour avoir de la reconnaissance.
Mais c'est aussi parce que les médias et la télévision, la première responsable de tout ça, a fait croire aux gens qu'il suffisait de passer 6 mois dans un château ou,
oui.
tu vois, ou d'avoir été dans un tel club de foot pendant tant de temps pour être un virtuose. Et en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche, oui. parce que tout ce qu'on acquiert au long de sa vie, si tu ne le travailles pas... tu vois, les gens me font souvent des beaux compliments, c'est gentil et tout, mais il ne faut pas perdre de l'idée que le don que j'ai à la base, c'est un don, d'où son nom qui m'a été donné à la naissance. Je ne sais pas d'où ça vient, j'en sais rien. Moi, ma mission dans la vie, c'est de ne pas l'abîmer, de ne pas le gâcher, donc de travailler. C'est une hygiène de vie, la musique, c'est, tu vois. Il y a toute une discipline autour de ça, puis c'est un truc qui nous porte tellement. Enfin, nous, quand on se croise entre passionnés comme ça, on voit pas le temps passer, tu vois, et ça jacasse, parce qu'il y aurait tellement à dire et à échanger, quoi. Mais les gens qui sont pas passionnés, ils comprennent pas, ils sont là, putain, ils vont passer à autre chose, ou...
La musique et le handicap, toi, t'as pas souffert particulièrement du handicap concernant la musique, hein,
non, fait. Parce que je me suis toujours, si tu veux, adapté au temps qui change. C'est-à-dire que moi, j'ai démarré à l'oreille, vraiment, pur et dur, à 3-4 ans. Mes parents se sont dit, c'est marrant, il entend des trucs comme ça, il sait les reproduire tout de suite. À l'époque, on n'appelait pas ça oreille absolue ou je ne sais pas quoi, on ne mettait pas de mots dessus, en tout cas dans mon cercle familial. Et puis après, je suis rentré dans un petit conservatoire de région pour apprendre le début du solfège, ce qui m'a clairement gonflé, parce qu'au début, la théorie, ce n'est pas intéressant au départ. Il n'y a qu'à l'âge adulte qu'on s'y remet et qu'on se dit, la vache, c'est quand même important de savoir
lire et écrire. Et on comprend l'utilité, ouais.
Ben ouais, complètement. Et du coup, j'ai fait ça. Après, je suis entré à l'INJA, donc à Paris. Et là, par contre, c'était très haut au niveau du niveau et du talent des profs qui nous entouraient. Je pense notamment à ma prof de piano, Isabelle Éclenché, qui était très, très dure avec moi. Et puis, comme moi, j'avais envie de rien foutre, tu penses bien que ça se passait très, très mal. Bon, on en a rediscuté 10-15 ans plus tard. On s'est tombé dans les bras. Enfin, c'était magnifique comme tout. Et du coup, Isabelle me filait les partitions en braille, et c'était une obligation à l'INJA de connaître l'alphabet de la musique, hein, de pouvoir lire et écrire la musique en braille. Donc le problème, c'est que c'est l'apprentissage des mains séparées. Et comme moi, j'aime aller assez vite, ça m'a vite gonflé de lire la main droite de la main gauche, et puis après d'échanger. Et du coup, une fois que tu as appris la deuxième main, bah, tu as oublié la première.
Ouais, c'est ça.
Donc tu perds du temps.
C'est l'enfer.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Le week-end, je rentrais chez mes parents au Havre et on allait à la FNAC. Enfin, l'ancêtre de la FNAC, c'était l'auditorium à l'époque.
Alors, c'est quand même beaucoup plus rapide. Hein.
On allait acheter les disques, tu vois, et je les apprenais d'oreille. Sauf que, bah, t'as beau avoir une bonne oreille.
T'as quand même des petites nuances, ouais.
T'es, tu loupes un truc, tu as la main gauche, tu vas avoir une sixte. Toi, tu l'as entendu comme une quinte au départ, t'as pas fait gaffe. Et là, c'est là que je me suis fait griller, c'est vraiment fait engueuler. Mais ça m'a permis de passer l'examen de fin d'année, en général, avec 19,5. Et les félicitations du jury. Donc, ça la rendait folle, si tu veux, ma prof de se dire que je travaillais pas tout au long de l'année, j'en foutais pas une, et que quand venait l'examen, bah, je passais dans tout le monde, quoi. Et alors, ça me faisait sauter des années à chaque fois.
Il faut expliquer pour les gens qui nous écoutent et qui seraient pas forcément au courant, mais il existe une notation musicale pour les non-voyants en braille, et c'est encore un autre alphabet avec des symboles et des signes particuliers. On apprend d'abord la main gauche, ensuite la main droite, et ensuite mentalement, on rassemble oui. les informations de la main gauche et de la main droite.
Mais je connais pas mal de personnes non-voyantes qui utilisent le braille pour le solfège, donc pour les partitions, qui ne peuvent pas s'en passer. Ils disent clairement, moi je sais pas apprendre un morceau autrement que comme ça. Et puis quand tu pars de l'INJA, comme ça a été mon cas en 1997, et que tu arrives à Rouen, enfin à côté de Rouen, à Maisnil-et-Nard, et puis que là, tu pars sur autre chose. Moi, j'ai choisi de changer complètement d'univers, donc le jazz. Et ben, c'est encore une autre annotation, une autre manière d'écrire la musique, de la penser, de la réfléchir. Et tu dis, mais la vache, quoi. Tu dis, ouais, ben, là, c'est A majuscule. Pourquoi ? Ah bon ? Pourquoi ? Donc, il y a tout un truc. Après, on t'apprend que mineur, machin, petit M, grand M. On va t'expliquer 6e, 7e, 9e. Ah ouais, 9e, c'est ça, d'accord. Et puis après, 11e, ah ouais, 13e bémol. Ah ouais, d'accord. Il y a tout un truc à réapprendre, quoi. Mais c'est ce qui fait qu'après, à l'âge adulte, t'es à l'aise, en tout cas, ce qui est mon cas, sur les deux tableaux. Et qui fait que quand je suis amené à enregistrer ou à travailler avec des gens, que ce soit dans le monde du classique ou du jazz, je suis pas perdu, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est de pas être là en train de dire ouais, « Mais ça, le projet, je vais pas pouvoir y participer parce que je comprends pas de quoi on parle. »
Pour terminer ce Voxtrack, Nicolas, je vais te demander, pour finir, de choisir le morceau de fin et de nous le présenter avant de se quitter.
Alors, c'est toujours un peu compliqué de choisir les morceaux qu'on aime de soi. C'est assez particulier d'être juge de son propre travail. Alors, quand c'est pour le dénigrer, tu vois, quand c'est pour dire « Ouais, j'ai foiré le mix, ça, c'est pas bien, j'aime pas », c'est facile, mais de trouver le morceau qui te plaît. Si je dois être fier d'un morceau, me concernant, c'est le morceau « Cathy », qui est dédié à ma cousine qui a choisi de ne plus faire partie de ce monde. Et ça m'a tellement marqué en 2015, quand c'est arrivé, que j'ai choisi de lui faire ce petit clin d'œil à travers un morceau de musique qui est très simple, qui n'est même pas riche plus que ça en termes d'harmonie. C'est très, très simple. Et c'est plutôt dans un registre... Alors, il y a des cordes, hein, parce que chez moi, il y a presque toujours des cordes. C'est ma passion number one. Mais on est sur de la musique électronique, on est sur de la trip-hop. Donc, avec une espèce de beat en boucle, machin... Un petit Rod Fender qui joue des arpèges, un deuxième qui joue la mélodie. Et à la fin, on a un arrangement de cordes pour l'adieu. Et on a la voix de Marcel Pagnol lui-même qui dit, parce qu'en fait, il a enregistré avant sa mort ses plus grands livres, hein, Le Château de ma mère, La gloire de mon père. Ils ont été enregistrés en livre audio par lui-même. Il les lit dans sa cuisine et on entend le frigo, tu sais, en arrière-plan. Et j'ai eu contact avec son petit-fils, Nicolas Pagnol, qui m'a donné l'autorisation d'utiliser le texte de son grand-père et la voix de son grand-père. Et je trouvais que ça marchait tellement bien, la citation, je ne veux même pas vous la dire, vous allez l'entendre dans le morceau. Mais ce morceau, j'en suis fier parce qu'il est simple, il est... n'importe qui peut le jouer, j'ai envie de te dire. Et pourtant, il exprime tellement de choses, ce qui est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir 10 000... extensions, 10 000 trucs, 10 000 septièmes, neuvièmes, machin, comme on parlait il y a deux minutes. Parfois, la musique peut être très, très simple et il suffit juste qu'elle sorte du cœur.
Parfois, c'est la meilleure.
Je te jure. Et ça, moi, quand j'écoute ce morceau, à chaque fois, ça me fout les boules et je me dis, mais qu'est-ce... J'ai été touché par la grâce, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je l'ai commencé à l'époque sous sonar et je l'ai fini quand j'ai eu mon Mac Mini en 2020. Puisque l'enregistrement est sorti en 2023, si je ne dis pas d'annerie, sur un EP qui s'appelle From Me to You, et dans lequel on retrouve des morceaux exclusivement de moi. Il y a 5 titres qui sont trip-hop, justement, où je m'amuse à mélanger l'électronique avec l'acoustique, la culture classique et la culture, on va dire, alors pas urbaine, parce qu'on n'est pas non plus dans du hip-hop, mais en tout cas très, très recherche de sons de synthèse, de samples lus à l'envers, tu vois, détériorés, etc., etc. Donc, ce morceau, ouais, je l'aime infiniment pour toutes ces raisons.
Je crois qu'on a bien discuté de tout. Je trouve qu'on te connaît mieux, je pense, à la fin. C'est un peu le but de Voxtrack. Et dire que voilà. Et franchement, ça m'a fait super plaisir. Surtout que ça fait plusieurs mois qu'on avait prévu de faire cette émission.
Et puis, on ne se connaît pas plus que ça, toi-même. Mais voilà. On se croise sur des événements. On se croise, voilà.
Mais c'est d'autant plus intéressant parce que moi, j'apprends aussi à te connaître. Oui. Au travers des choses qu'on se raconte, des anecdotes. Et donc, je te remercie encore 1000 fois pour le temps passé.
Bah écoute, je te remercie d'avoir invité à papoter avec toi. Et puis, de toute façon, le plus gros de ce qui peut se dire par rapport à mon parcours, même ce qu'on n'aurait pas évoqué ici, ça se trouve facilement sur mon site web, hein, nicolasbraconnier.fr. Et puis ma chaîne YouTube sous le nom de Nicolas Michel Braconnier. Alors Michel, c'est mon deuxième prénom. Hein.
Oui, pas, d'accord. Parce que moi, je croyais que c'était vraiment Nicolas Michel, comme on dit.
Non, c'est un hommage que je rends à mon grand-père maternel, pardon, donc le père de ma mère qui s'appelait Michel. Et c'est lui qui a suggéré, mes parents m'appelaient Nicolas. Je trouvais que la boucle était bouclée, en fait. Mais voilà, c'est pas du tout un pseudo d'artiste ou je sais pas quoi, c'est juste mon patronyme complet, quoi.
Eh bien, écoute, Nico, je me permets, je te souhaite vraiment une belle journée. Et puis j'espère qu'on va se retrouver prochainement, qui sait, pour d'autres projets. Et merci à toi, en tout cas.
Bah, merci à toi également. Et puis, bah, écoute, à bientôt.
À très bientôt. Ainsi s'achève ce numéro de VoxTrack, un VoxTrack consacré encore une fois à un compositeur, aujourd'hui Nicolas Michel Braconnier. Une fois n'est pas coutume, montage, mixage, pour tous les autres VoxTrack également, votre serviteur. Vous pouvez, si vous le souhaitez bien sûr, laisser tous vos commentaires. Vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming ce superbe morceau, donc Cathy, de Nicolas Michel Braconnier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour un prochain numéro de VoxTrack. En attendant, je laisse le mot de la fin à Marcel Pagnol lui-même.
Le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par l'inoubliable chagrin. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.